pierdere coronea partidei. Delgado acolo este
Lettre romande avec Julien Sansonnens.
Bienvenue dans Lettres romandes, le podcast consacré à la littérature sous toutes ses formes, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons l'éditeur Olivier Moratel. Olivier Moratel, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour nos auditeurs ?
Ah, bonsoir Julien, merci pour votre intérêt. Hein. Ça faisait quelque temps qu'on voulait déjà fixer cet entretien téléphonique. J'espère qu'on pourra entendre, vu la connexion, enfin voilà, en tout cas de la mienne, vu que j'ai pas Skype. Bah, me présenter, oui, ben voilà, moi j'ai un parcours assez atypique, mais comme on parle de l'édition, ça fait, j'ai créé ma maison d'édition le 30 novembre 2009, donc ça fait 5 ans, bientôt 5 ans et demi, et puis j'ai vraiment lancé mes premiers livres en 2010. Donc voilà, ça fait 5 ans d'édition, vraiment, mais à fond, quoi. 5 ans d'édition, je me donne vraiment beaucoup. J'essaie de développer, que ce soit mes auteurs, que ce soit mes idées, que ce soit la maison pour vraiment dire, voilà, un peu, je suis éditeur roman. Le siège de ma maison est à Lausanne, officiellement au registre du commerce. Je suis à Chaux-de-Fonds maintenant, mais je suis un peu entre les deux, parce que c'est vrai qu'en Suisse romande, c'est comme Lausanne et Genève, mais j'aime beaucoup Chaux-de-Fonds, nos ressources, voilà.
D'accord. Et puis peut-être avant de parler de votre métier d'éditeur, quel a été votre parcours professionnel? J'imagine que vous avez un métier avant de faire éditeur. Quelle a été votre formation scolaire? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que éditeur, c'est un des rares métiers. Il n'y a pas de CFC, il n'y a pas de formation en Suisse. Alors qu'en France, par exemple, je reçois des CV de gens qui ont fait des postgrads, des MBA, pas des MBA, des masters en édition. En France, c'est vraiment un métier qui est considéré haut. En Suisse, la plupart des gens ne savent déjà pas qu'il y a des éditeurs suisses, hein, faut pas rêver. Bon, donc, bien sûr, moi en plus, j'ai un profil très atypique, qui avait surpris certains au départ. Mais après, au contraire, c'est que je suis, j'ai fait de maturité commerciale à Yverdon, voilà. Ensuite, je suis devenu cadre au Crédit Suisse Genève. Dans le domaine, souvent, la gestion de fortune. Voilà, c'est vrai que ça surprend un peu, parce que je dirais que c'est pas littéraire, c'est atypique. Bon, c'était aussi, j'ai 42 ans, c'était aussi une autre époque, en 92, j'avais 20 ans, j'ai commencé assez vite. C'était pas la finance, spéculation, comme maintenant les salaires étaient normaux. Et par contre, il y avait déjà un intérêt macroéconomique, politique. Et déjà, la culture faisait partie, mais c'est vrai que j'ai fait ça jusqu'en 2000, hein, 92-2000. Finance, oui. Banque, assurance et tout. Après, il y a une orientation qui a changé un peu.
Oui, assez radicalement même. Est-ce que justement, ce profil d'éditeur atypique, est-ce que ce n'est pas une richesse? Est-ce que les gens qui ont des parcours comme ça, diamétralement opposés, ou en tout cas a priori, est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui sont souvent, qui font souvent des choses intéressantes?
Je pense que oui, franchement, parce que, après, bien sûr, il y a des gens qui ont fait les lettres, qui ont fait la formation, c'est important pour bien savoir, peut-être comprendre une certaine littérature et autres, mais après, ça permet en tout cas d'être un peu plus iconoclaste, d'oser peut-être d'autres choses. Moi, quand j'ai pris le métier d'éditeur, je ne me suis pas dit, je connaissais pas, donc je me suis dit, on va y aller, comme en communication, puis j'essaie de faire autrement. J'avais pas les mêmes normes que les autres. Je pense que très peu de gens rêvent d'être éditeurs. Je pense que même Compige, qui est éditeur depuis longtemps, ne rêvait pas de devenir éditeur. On le devient un peu par hasard, par le plaisir de la littérature, par l'envie de faire connaître les auteurs surtout.
Oh, quand même, c'est quand même un métier qui a un certain prestige, qui fait rêver. Alors peut-être encore plus écrivain, mais éditeur tout de même, c'est quand même un métier qui fait rêver, non?
Il fait rêver, oui et non. Parce que quand on en parle en Suisse, déjà, comme je vous disais, les gens ne savent pas vraiment qu'il y a des maisons d'édition. Et quand on va un peu plus loin, les gens connaissent à peine grâce au Gallimard. Parce que c'est vrai que les gens regardent les maisons d'édition, mais ils ne se rendent pas forcément compte. Voilà. Il y a 20 ans, c'est clair qu'un Dimitri Ebitch, c'était quelqu'un qui a fait rêver d'ailleurs. C'est un personnage magnifique. Le dernier roman de Michel Olivier qui en parle à travers, il est très touchant, parce que c'est ça, voilà, je le sens proche, hein, Dimitri Evitch, il faut être fou pour être éditeur, disait Kuffer, Jean-Louis Kuffer, oui, mais ça fait pas forcément rêver, en France, oui, mais en France, dès que je parle de ça, ben, je suis proche de la frontière française, dès que je parle avec un Français, tout de suite, il y a un intérêt, tout de suite, enfin, c'est un peu le monde, hein, je veux dire, en Suisse, même écrivain, vous qui êtes écrivain, Julien, vous le savez, être écrivain en Suisse, il faut je sais pas combien de livres pour qu'on puisse le dire, enfin, il faut un peu du temps pour en créer la machine, quoi, voilà.
Tout à fait, absolument, tout à fait. Et au niveau de votre milieu social, donc des études plutôt au niveau de la finance, est-ce que vos parents vous ont donné le goût de la lecture, de la littérature, d'où ça vous vient finalement?
Quand même, oui, quand même. Une fois, j'ai répondu à un interview il y a longtemps, que j'avais lancé la maison d'édition seulement en 2010, et puis je m'étais rendu compte avec ça que oui, parce que mes parents lisaient les deux, et ma mère, qui est italienne, hein, bon, qui est plus 40 ans en Suisse, parce qu'elle est plus italienne, ça a 40 ans, 43 ans en Suisse, tu sais, elle a appris le français en lisant des auteurs, mais comme Dostoïevski, quoi, ce qui me paraît, je veux dire, j'arrête pas de la vanter, elle se rend même pas compte qu'elle a appris le français avec un des pontes quand même du roman mondial, quoi. Dostoïevski, Freud, beaucoup d'auteurs comme ça, assez poussés, quoi. Donc elle a appris le français comme ça. Mon père lisait plutôt un peu tout. Puis moi, j'ai commencé après à lire un peu. J'ai commencé à lire comme pas mal de gens quand même. Je me rends compte, et des gens souvent assez originaux après, je me parle là-dedans, mais sans Antonio. C'est vraiment le début. Et c'est quand même. J'en ai lu 250. J'ai presque tous lu, quoi. Comme Quentin, comme Kuffer, comme pas mal de gens. Et ça m'a fait. Et une famille encore supplémentaire. Et une création dans le mot. Et c'est extraordinaire, Dard. J'ai un respect. Frédéric Dard, c'est un immense écrivain qui n'est pas du tout connu, pas encore assez reconnu à son niveau.
Absolument. Qui commence à être connu en Suisse, heureusement.
Oui, de mon compte, parce que oui, comme Simenon. Dard et Simenon, deux écrivains majeurs du XXe siècle, ont vendu, parce qu'ils ont vendu des centaines de millions de livres, donc ça peut être que suspect, mais c'est vrai que, à la fois, je trouve que Dard, il y a un côté de Céline dans le parler écrit quand même, dans l'argot et tout, même si après il n'y a pas ce côté noir et tout, mais dans la création de la langue, et puis Simenon, que j'adore, il y a quand même un côté terriblement Balzac, quoi, et c'est un observateur hallucinant. Et les deux sont meilleurs souvent quand ils ne font pas ou Saint-Antonio ou le commissaire Maigret, quand ils font les livres à côté.
D'accord, c'est deux de vos références en littérature.
Oui. Et beaucoup plus d'art, mais après Simenon, aussi à travers les films qu'il y a eu, les téléfilms, parce qu'il y a beaucoup, j'aime beaucoup Chabrol, j'aime beaucoup le cinéma, et il y a tellement de films qu'il a repris, Les fantômes de Chapelier, ou après L'horloger de Saint-Paul, La fête à Vernier, enfin beaucoup de films de Simenon, où il y a cette humanité, cette contradiction, que Céline, que j'aime beaucoup, Céline est immense, mais qui a moins de nuances, on va dire. Simenon est quand même plus humain, on va dire, dans sa façon d'aborder, même s'il peut être dur. Mais voilà, mais c'est avec ces livres-là, oui, que j'ai commencé, et puis après d'autres, assez vite.
D'accord. Qui ont fait votre éducation, en quelque sorte, en littérature.
Oui, entre 12, 11 et 13, 14 ans, j'ai lu ça. Mais après, j'ai vite pris, comme l'écrivain qui m'a le plus marqué après, il y a deux ou trois écrivains, mais ça se ressemble, c'est dans l'humour noir et dans les pièces de théâtre, mais surtout dans cette façon à la fois noire et drôle, c'est Sartre. Et Dürrenmatt est un écrivain, on se rend pas compte en Suisse qu'on a un des plus grands écrivains du XXe siècle, ça aussi, Dürrenmatt, c'est connu dans le monde entier, je veux dire, le commissaire Berlard, le soupçon de Dürrenmatt, je le conseille à tout le monde, c'est un mélange de métaphysique, de science-fiction, de polar, d'histoire, avec du suspense.
Absolument.
J'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est ceux-là qui m'ont beaucoup soucié, Sartre, Camus, tout homme est contemporain, un peu essentialiste, mais aussi friche. Enfin, c'est un peu dans ceux-là, après Kafka, un peu comme c'est ceux-là qui m'ont permis de découvrir le monde.
Dürrenmatt, en tant que Neuchâtelois, j'ai découvert au gymnase où il était naturellement au programme, et c'est vrai que c'était une bonne, une sacrée découverte et beaucoup de plaisir à lire ces pièces, notamment les pièces de théâtre. Alors, peut-être avant d'en venir à votre activité d'éditeur, vous, pour en rester encore un petit peu à quelques éléments, je dirais, biographiques, vous avez évoqué donc votre activité dans la banque, et puis vous avez parlé également d'un engagement politique. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de cette période?
Après 2000, il y avait pas mal de changements dans ma vie. J'avais travaillé pour mon meilleur ami de l'époque, où je travaillais pour la coopérative Textura et Démarche ensuite. Donc c'est là que j'ai commencé à former des chômeurs, à créer des structures de formation, à mettre en place des sites internet, mais au niveau pas technique, mais au niveau du remplissage logistique, à faire la gestion de projet. Et voilà, j'ai formé en gestion de projet, j'ai formé en technique de recherche d'emploi. Donc là, j'ai appris des choses tout sous le tas, parce que je suis très comme ça autodidacte, qui vient de la finance. Et c'est là aussi, vers 2001-2002, que j'ai fait de la communication. Ce qui me sert aujourd'hui énormément, parce que j'ai compris que c'était important de communiquer. Et oui, politique, déjà, j'étais proche. Je me suis remis, on va dire, je me suis rapproché de la politique à gauche, parce que je reste un homme de gauche, même si aujourd'hui ça commence à devenir difficile, la différence entre gauche et droite, mais même une gauche, on va dire, de transformation sociale, pour prendre ce terme. Et c'est vrai que, j'ai suivi en 2001, j'ai connu Joseph Giliadis, je lui ai proposé mes services, on a fait 2-3 ans ensemble. Après, j'ai fait une pause, et puis, en 2006, quand tout au continent, ces activités un peu multiples, j'ai créé un service social pour le POP à Lausanne, et puis là aussi, je connaissais pas, mais j'avais quand même, en étant financier, en connaissant les choses, enfin, économie financière, j'ai pu aider pas mal de gens, parce qu'ensuite, le problème qu'on a, c'est par exemple l'AI ne connaît pas le chômage, ne connaît pas le revenu d'insertion, ne connaît pas les subventions. Tous les services étaient ne se parlaient pas. Et j'ai connu 2-3 personnes, enfin il y a eu 40 cas à peu près en 2 ans, et 2-3 personnes qui étaient sorties des mailles du filet social, parce qu'il est fort, mais qui étaient pratiquement SDF. Alors, je n'aurais pas sauvé la vie, mais j'ai pu remettre tout. Parce qu'on peut quand même sortir, ou ces gens qui n'osent pas, vous savez, les préfets qui n'osent pas demander les complémentaires, ou des gens qui sont... Là, j'ai aussi eu un étranger qui avait été, je crois qu'il était croate, qu'on croyait qu'il trichait parce qu'il avait prêté de l'argent qu'il n'avait plus, mais il n'avait plus le contrat. Enfin, prouver qu'il était de bonne foi. Enfin, j'ai essayé de rétablir par le travail. Après, comme le parti n'avait pas vraiment la structure pour ça, ça m'a un peu usé et j'ai arrêté, mais... ça m'a mis là vraiment en pratique avec des gens de gauche. Et là, j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler avec des gens comme Marianne Huguenin, comme Didier Divorne, des gens vraiment qui ont été des relais là, importants.
Absolument, ouais, tout à fait. D'accord, donc une jeunesse riche d'expérience finalement, qui aujourd'hui probablement d'une manière ou d'une autre ressort dans votre travail d'édition ou dans votre vie de tous les jours probablement.
Alors clairement, pour l'édition, de la vie de tous les jours, c'est pas un avantage forcément en Suisse d'avoir fait beaucoup de choses, parce qu'après on peut pas vous mettre une étiquette. Mais quand je vois, par exemple, vous voyez un peu le genre, quoi. C'est vrai que, financier, mais même si je connais encore bien tout ce qu'on parlait, en même temps j'aime beaucoup aussi le sport, donc ça. Un Stéphane Beuvant, fondateur des éditions Elisella, c'est aussi une culture très très vaste, il a fait un apprentissage commercial d'après les lettres, et que lui, on peut parler de tout, donc et ça c'est amusant, postmodernisme. Mais je dirais que oui, parce que quand je vois un texte maintenant d'un auteur, elle parlait avec lui, je me mets dans la partie commerciale, dans la partie littéraire, dans la partie aussi de le comprendre, dans l'empathie, dans la partie aussi sociale. Le thème de ma maison d'édition, c'est la liberté d'écriture. Avant Charlie Hebdo et tout ça, Charlie Hebdo, j'ai plus de 20 ans, liberté d'expression, mais la liberté d'écriture aussi. Enfin, j'ai une ligne quand même qui se voit, là j'arrive au 17, j'ai fait 17 livres, j'en sortais bientôt 3, on va arriver à 20, mais c'est quand même une maison qui, je veux à travers qu'elle, qui frappe, qui soit des choses de pas commerciales, mais qui soit pas non plus non commerciales. Enfin, trouver toujours ce juste milieu entre quelque chose de littéraire ou en tout cas quelque chose de pointu, tout en touchant les gens. Et j'essaie d'y arriver par moment. Ça, c'est la guerre.
Alors, vous êtes éditeur, vous êtes aussi petit patron.
Oui.
Est-ce que vous parvenez à vivre de l'édition aujourd'hui? Est-ce qu'on parvient à vivre de l'édition en Suisse?
Non. Il y en a peu, hein, dans les gros, on va dire que Zoé, ils en vivent, mais voilà, Marius Petri a fait 40 ans de travail, ils en vivent maintenant. Campiche, il en vit, mais il en vit pas beaucoup, plus très bien. Un temps, c'était à 20 ans, c'est possible. Maintenant, c'est dur. Et puis tous les autres, moi, je pense que c'est la communication à côté. Donc, tous les autres, on a trouvé d'autres possibilités. L'édition, non, ça rapporte pas assez. Et en Suisse romande, surtout qu'on a le mur de béton, enfin, qu'on a le mur, non pas le mur de béton, le mur de verre, plutôt, avec la France. Et ça, j'en parlais un jour sur Facebook, mais c'est vrai que déjà en Suisse, l'édition en Suisse n'est pas très, très bien vue. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a des écrivains suisses. Il y a des préjugés, puis il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui défendent ça très bien. Et je trouve que la presse, les médias, ils défendent ça très bien. Moi, je suis bien avec eux. Mais vous parlez avec quelqu'un, ils vont vous citer Chessé, Aldas, voire Bouvier. Mais ensuite, ça s'arrête un peu là.
Ramu.
Oui, bien sûr, Ramu. Mais voilà, Ramu, Sandrard, en n'oubliant pas qu'il est sous le fond, et puis qu'il est, voilà, vous êtes là aussi de la région, je crois, hein, justement, et puis qu'il est, voilà, mort français, mais bon, voilà, Mélix Saint-Hélier, Rousseau, voilà, mais on n'a pas, comme les Belges aujourd'hui, qui ont des amis, les Belges ont aussi des commerciaux dans les écrivains, on va dire, quand même, Leton, ou, comment il s'appelle, Eric Emmanuel Schmitt, c'est des têtes d'affiches, qui ont des millions de livres, qui sont belges.
Est-ce qu'il manque aujourd'hui en Suisse des têtes d'affiche, pour reprendre votre expression? Est-ce qu'il manque quelques personnalités comme un Chessé qui pourrait tirer comme ça la littérature romande?
Oui, je dirais Chessé, oui, parce que, voilà, bon. Après, moi, j'ai Quentin Mourant, comme vous savez, j'ai lancé tout, puis que maintenant, est placé en France dans une maison. Je pense que lui, il aurait la possibilité par la suite de faire peut-être justement quelque chose de littéraire et de montrer qu'en Suisse, il y a d'autres choses. Parce que
c'est sur des années, ça.
Comment?
Je dis, c'est sur des années aussi.
Oui, lui, il faudra beaucoup de temps. Il faudra beaucoup de temps. Lui, il a fait 3 livres avec moi, là, il fait un 4e. Il faudra du temps, il faut installer et tout. Mais je pense que lui, particulièrement avec son ensemble, il aurait un niveau de montrer. Ensuite, ça pourrait retourner sur la littérature au monde. À l'époque, Lisbeth Kouchoumoff, qui est une amie du temps, me demandait pour Dicker. J'avais pensé que Joël Dicker, son succès phénoménal, allait apporter à la littérature au monde quelque chose. Eh ben, non. Non. Déjà, Dicker, il y a peu de gens qui savent qu'il est suisse, hein, c'est vrai, en France, ou traduit dans les 40 langues où il est, même si c'est un auteur suisse, jeune voix, que je trouve d'ailleurs sympa et autre, il n'a pas pris la grosse tête, mais il est un peu un ovni de la littérature romande. C'est, voilà, c'est aussi de Fallot avec l'âge d'homme, enfin. Moi, je pensais que j'ai sorti Quentin en même temps, que ça allait exploser. Ça s'est bien vendu Quentin en France, mais ça n'a pas du tout été au niveau de Dicker. Donc, ça n'a pas été cette locomotive. Et puis
est-ce qu'il a refusé d'assumer ce rôle justement de locomotive de la littérature suisse? C'est peut-être quelque chose dont il n'avait pas envie finalement.
Je pense qu'il n'a pas refusé, mais il l'a pas mis en avant non plus. Il est devenu un autre. Il a toujours dit qu'il était suisse, donc c'est marqué qu'il est suisse, qu'il est genevois. Mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est... La littérature romande, pour lui, c'est aussi Genève, hein, donc plus proche de la France. Et après, il a tellement travaillé sur son livre et sur les choses que je pense qu'il a aussi été pris dans un tourbillon qu'il n'a pas pu non plus développer. Peut-être pas la suite, avec son 3e livre, parce qu'il a fait un avant, qu'on oublie toujours, avant la vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui était justement plus dans l'idée de la littérature romande. Là, il a reçu le prix des écrivains genevois. Enfin, il était parti comme ça. Après, il y a un succès phénoménal. Je pense qu'il a été dépassé aussi, et puis c'est pas facile de dire, écoutez, il y a d'autres, voilà, des écrivains l'auront fait, mais je peux pas juger. Moi, je trouve que, en tout cas, il a montré à pas mal de gens en Suisse, malgré tout, que c'est quand même possible, voilà. Bon, ça c'est aussi possible, mais les gens qui me parlent en disant qu'ils veulent faire un best-seller, pour moi, c'est déjà foutu, parce que c'est, à part des écrivains consacrés que je connais, parce qu'on peut... écrire dans l'idée de faire un succès, à ce point-là, ça ne marche pas.
Il n'y a heureusement pas de recette, effectivement, miracle, qui permet de le faire.
On sait plus ou moins que dans un livre, je sais si ça va se vendre bien ou pas. Et encore, je me fais avoir. Mais encore, je me fais avoir, je ne sais pas non plus, Dimitri ou Campiche, quand on a des expériences, mais il y a des fois que je pense. Mais généralement, on sait ce qui va être confidentiel ou pas. Joël, c'est vrai que c'est un polar avec qui raconte la littérature, mais c'est un livre intéressant et c'est quand même, il y a eu des critiques. Ce qui me désole un peu, par exemple, dans ce roman, c'est qu'il n'a pas eu un seul prix. Donc, alors il y a un paradoxe, on peut aimer ou pas aimer, mais il reçoit le Grand Prix de l'Académie française, il reçoit le Goncourt des lycéens, et puis ensuite il n'a pas de prix. Donc, alors, il finit troisième du Goncourt. Donc, il y a quand même un côté, un problème avec la jalousie, avec ça quand même. Alors, bon, voilà, donc ça, je trouve que c'était pas mal qu'il ait été sélectionné pour, voilà, quand même.
Mais bon. Absolument, ouais, tout à fait. Vous avez peut-être des indiscrétions sur son troisième roman.
Non, justement, pas du tout. Je crois qu'il avait parlé de Crochebin sur une émission cette année, mais pour l'instant, c'est
assez peu d'informations là-dessus.
Assez peu. Mais pour lui, il faut imaginer que ça doit être terrible. Enfin, voilà, parce que quoi qu'il fasse, on l'attend au tournant.
Oui, de toute façon, il va décevoir, ça c'est sûr. Il en parle d'ailleurs lui-même dans son livre. Il le sait et il pourra que décevoir. C'est un petit peu la rançon de ce genre de succès.
Bah, s'il fait un polar comme ça, parce que c'est pas vraiment un polar, mais s'il fait un Philippe Roth, un peu comme ça, qu'on s'en a comparé, même si c'est pas tout à fait la même chose, il y a quand même de l'idée là-dessus. Ça sera une façon très dure à refaire ce mécanisme, parce que ça, je pense qu'il a été porté quand même, il a un souffle hein, là-dedans. Hein. C'est quand même un livre qui a un souffle, oui. Hein, je veux dire, qu'on le veut ou non. Il y a un souffle.
Oui, oui, oui.
Après, moi, le début était pour moi un peu caricatural, et puis la fin, il y a beaucoup de rebondissements, mais il y a 300-400 pages au milieu qui sont un souffle quand même très puissant, et c'est quand même quelque chose à part. La réflexion sur la littérature, elle est quand même originale. Donc, je veux dire, faut
on
pas
peut,
dire, voilà, mais...
non, si peut-être regretter la forme.
Excusez-moi.
Je dis, on peut peut-être regretter la forme qui n'est pas forcément extraordinairement inventive, mais c'est vrai que c'est finalement un très bon livre. En tout cas, moi, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, comme beaucoup de monde.
C'est ça. Au fond, quelque part, je me posais aussi la question, parce que je l'ai lu après des livres compliqués, mais j'ai lu plaisir. Je me dis, quelque part, au fond, est-ce que ce ne serait pas le but d'un livre de faire du... C'est con, cette phrase, mais de donner du plaisir au lecteur, parce que... des livres, je sais très bien qu'ils auront un plaisir, mais en s'appliquant, en recherchant, mais là, c'est un plaisir plus immédiat, et c'est quand même pas Marc Lévy. Ce qui compare à Marc Lévy, que je raconte Marc Lévy non plus, c'est un écrivain qui donne du plaisir seulement à des gens, mais Dicker a quand même un propos plus musclé, je veux dire, c'est quand même autre chose.
Mais ouais,
après, ce qui est commercial est suspect. Ce qu'on disait avec Simenon et avec... Je pense que Simenon et Dard, c'était quand même plus important, mais à l'époque, c'était considéré comme des écrivains de gare.
Oui, 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 absolument.
Donc avec le recul, peut-être qu'on dira un jour que Marc Lévy... certains, je sais, ont lu, moi j'ai pas encore lu, qui ont trouvé que c'était pas si mal et que la critique était facile. Donc moi,
absolument.
Je sais pas passer cette littérature-là, j'ai pour une littérature plus audacieuse, mais en même temps... Moi, je préfère quelqu'un qui lise Marc Lévy, Dicker, qui n'appelle pas justement à Le Clésio, je ne sais pas, pas forcément à Houellebecq, ça va être trop noir, mais à quelque chose de... Même Bec Bédé, qui est un peu littéraire, même si on va dire que c'est... Voilà. Et puis peu à peu, il arrive à Céline, ou je ne sais pas, ou enfin, qu'il arrive à quelque chose.
Voilà,
avec un petit et tout. Enfin, quelqu'un qui lit, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui est sur la bonne voie. Les gens qui lisent Suède en disant qu'ils font des chapelles, ce n'est pas le moment, je trouve. Voilà.
Absolument. Alors, vous avez publié, je crois, 17 livres, hein, c'est bien ça. Quel a été votre plus grand succès d'édition?
C'est Quentin Mourant, quand même, au point des fusions et des égouts. C'est le premier roman de Quentin Mourant, je lance en 2011. Quentin, il est de 89, donc il a à 22 ans à peine. Et puis ce livre, j'y crois, voilà, un livre que je crois, j'étais certain que c'était un bon livre. Mais le succès, je ne peux pas être certain qu'il y ait un succès. Parce que voilà, même si c'est un bon livre, après, on a fait un duo infernal, on a fait trois livres, et puis on est toujours très proches, c'est un de mes meilleurs amis. Quentin Mourant, c'est pas mon meilleur ami, donc c'est vraiment, il y a une proximité à peu près paternelle, on rigole avec ça, mais j'ai 42 ans, il y en a 25, et puis il n'y a pas justement de... C'était un duo, c'était une expérience folle, parce que c'est aussi une bête médiatique, c'est aussi quelqu'un qui a un charisme, puis il a une écriture superbe, et puis il fait ce qu'il veut avec son écriture. Et ça, j'avais senti dès le départ tout de suite. Parce qu'on a beaucoup travaillé le premier livre. Et ça, il est parti. Et puis après, voilà. Aujourd'hui, ça paraît une évidence que Quentin Mourant est connu, mais il a fallu faire une bataille. Mais comme Dicker, son premier livre, il a fait aussi une bataille terrible. On n'arrive pas comme ça par hasard. Je veux dire, ça, c'est rare.
Oui, tout à fait, absolument. Alors, il y a un paradoxe, finalement, parce que vous nous dites que l'édition en Suisse romande rapporte peu, finalement, que ça tient parfois presque du sacerdoce, et puis on a l'impression quand même d'une grande diversité d'éditeurs, notamment de petits éditeurs, d'indépendants, de gens qui se mettent ensemble pour sortir des livres. Alors, est-ce qu'ils en vivent, est-ce qu'ils en vivent pas, probablement difficilement, mais... Il y a quand même des gens qui se lancent encore aujourd'hui dans l'édition, comme vous l'avez fait et comme d'autres l'ont fait avant vous et après vous. Donc ça reste un milieu avec beaucoup d'émulation finalement.
Disons qu'il y a quand même en Suisse, quand on parlait dans son livre avec humour, mais il y a un principe quand même de subvention qui n'est pas institutionnalisé, ce qui est des fois difficile. Ça veut dire que pour chaque livre, selon le domicile, selon on va dire où habite l'auteur, il y a quand même souvent des subventions, par exemple la ville de Lausanne, qui donne vraiment beaucoup d'argent, le canton de Vaud, qui, moi, la plupart, ont sponsorisé mes livres, subventionné mes livres, parce que c'est, voilà, et puis ça aide bien. Par exemple, Genève fait ça aussi très bien. Enfin, la plupart des cantons le font, mais c'est pas... même Genève, ils ont la ville de Genève a un partenariat, je crois, qui donne 100 000 francs, donc faut la vérifier, hein. Mais à des maisons d'édition comme Zoé, et puis ça les soutient dès la base. Et ça, c'est pas mal. Alors, le livre est le parent pauvre, hein, ça on le sait. Alain Berset le dit lui-même, alors sa femme est aussi une grande lectrice et participe au roman Les Romans. C'est intéressant de savoir que c'est des lecteurs et que ça fait du bien. Oui. Couchepin aussi était lecteur, mais Berset encore plus, je dirais, dans le livre. Catherine Lyon aussi, enfin voilà, mais les subventions permettent quand même de sortir des livres. Ça veut dire au moins de ne pas perdre de l'argent. Si on arrive à bien faire les choses, au moins on ne perd pas de l'argent et ça permet d'avoir une littérature qui tourne.
Avec le risque, peut-être éventuellement, un petit peu comme avec la presse subventionnée, finalement, d'une possible perte d'indépendance des maisons d'édition qui deviennent en quelque sorte dépendantes précisément des subventions. On imagine bien qu'il n'y a pas de considération politique dans l'attribution des subventions, en tout cas on l'espère, mais c'est peut-être malgré tout un risque avec lequel il faut compter.
Oui, oui et non, parce que c'est vraiment pas politique. Par exemple, moi, c'est vrai que c'est avec le temps, c'est avec le succès, c'est avec les efforts, c'est avec aussi la présentation des dossiers. Je reçois souvent parce qu'ils voient aussi la qualité, sans prétention, mais la qualité, ils voient aussi la promotion que je fais. Parce que ça, c'est une des parties qui me sépare un peu de certains. C'est que pour moi, un livre, il n'est pas juste fait pendant le travail sur l'écriture et puis les subventions, mais il est fait énormément avec la promotion. Et puis là, ça aide. Donc, à quelque part... ils jouent le jeu aussi, parce que quelque part, comment dire, ils ont aussi envie de soutenir le livre. Non, c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que il y a peut-être des auteurs, et ça, pourtant, parlez-nous dans son livre, et ça, que ça faisait un tollé, mais un auteur, par exemple, Neuchâtelois est moins soutenu qu'un auteur vaudois ou bernois, qui a beaucoup de subventions. Donc, on sait déjà que ce sera plus difficile, pour s'en sortir. Mais aussi, une chose qui a changé, je dirais maintenant, clairement pour moi et pour tous les autres, c'est l'impression. Parce que l'impression à l'époque se faisait... Moi, j'ai commencé par la faire en Suisse, chez Gasser ou Locke, justement. Puis maintenant qu'on la sous-traite un peu dans les pays de l'Est et autres, mais comme tout le monde, hein, je veux dire, comme en France, comme ailleurs ou en France, on permet d'avoir plus de possibilités avec ça aussi. Ce qui permet de sortir des livres un peu plus, sans avoir trop de pression aussi, un peu moins. Enfin, un peu plus, voilà. Ça, c'est important aussi, parce qu'on avait ces charges fixes. Avant, la subvention couvrait à peine l'impression, alors que l'impression fait 30 à 40% du livre. Donc, il y avait des risques. Maintenant, on peut se permettre de faire ça. Moi, j'ai longtemps hésité aussi par des idées de gauche, mais à un moment donné, les imprimeries ferment aussi. Et puis, c'est aussi bien de pouvoir souffler, c'est aussi bien de pouvoir donner de la chance à des nouveaux. C'est ça, surtout. On fait plus de livres, absolument. Et puis, autrement, on en fait moins. Quoi. Voilà, c'est... Puis tout le monde fait ça, et les gros font ça. Alors les petits, nous, je fais partie des petits et moyens. Selon la visibilité, je fais partie des moyens assez connus, mais réellement, c'est petit. C'est ça, le paradoxe.
Vous avez engagé du monde, ou comment ça se passe?
Non, justement pas. Enfin, maintenant, j'ai une assistante, maintenant, oui. Une assistante qui s'appelle Aurore Aranda, justement, qui lit, qui est une très très bonne lectrice, qui voit que j'avais du retard sur les manuscrits, hein, ça, voilà, mais j'ai du retard sur que je reçois trop de manuscrits, que j'arrive pas à lire, parce que je les lis trop tard, parce que comme je fais la promotion, puis aussi pour contrôler, ou pour voir, ou pour avoir un deuxième avis, enfin, ça m'aide bien, Mais après, ça reste beaucoup, parce que l'éditeur, un éditeur ensuite, il fait 5 métiers à peu près. Moi, je passe mon temps à poster des livres, quoi, genre, les facteurs, hein, je veux dire, ça vous apprend l'humilité que vous postez 30 kilos de livres, voilà, etc. Mais depuis le départ d'un texte, moi, je corrige avec l'auteur, je prends souvent 4-5 mois, on refait, on reprend. Ma spécialité, c'est la lecture à la suite, sur la véranda, jeu de fond ou bien chez l'auteur. On va lire le texte pendant 10 heures de temps consécutives. On vit fou, dangereux. Et comme ça, on fait une espèce de truc. Je fais ça avec Quentin pour les trois. Et d'après, j'ai fait maintenant ça avec Fazan, je vais en faire avec Fazan. Et avec la sonorité, on relit, ben, j'ai travaillé avant. Ensuite, des demandes de subventions, ensuite la mise en page, ensuite la distribution et la diffusion, ça en Suisse et en France aussi pour moi. Et ensuite, après, la communication avec les médias, qui pour moi peut durer 6 mois. Ouais, là, la différence se fait là. Et c'est là que, pour moi, ça a autant d'importance, parce que c'est pas pour une question d'argent, parce que c'est surtout pour que l'auteur, je trouve qu'il a une visibilité, qu'il a une chance d'être connu.
Alors, un ou une jeune auteur qui voudrait vous envoyer peut-être son premier manuscrit, ou en tout cas un manuscrit qu'il a écrit, qu'est-ce que vous cherchez finalement chez les nouveaux auteurs? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous retenez parmi les textes qui vous sont soumis?
Ouais, c'est une bonne question. Parce que souvent, j'ai pu un peu après y réfléchir une fois, à force, parce que je me dis oui, pourquoi, au fond. Moi, c'est très à l'instinct, hein, les livres, c'est vrai, ouais. Bon, il faudrait savoir que sur 1000, alors ça c'est pas un chiffre qui va faire plaisir, mais ça en Suisse comme en France, sur 1000 manuscrits envoyés, il y en a un qui est publié. Peut-être deux en Suisse, mais ça fait peu, hein.
Ça fait peu.
Et des fois, je reçois des livres des pavés de 500 pages à 4, et puis je vois qu'au bout de quelques pages, c'est pas bon. Je me dis, mais des fois, je préfère certains auteurs. Quentin, c'était ça. Quentin, c'était 2 chapitres, hein, c'est tout. Parce qu'on a fait le livre ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait les idées, mais on travaillait. Et faisant aussi, il n'y avait pas tout qui était fini. Certains, oui. Ferguson, oui. Ça dépend des auteurs. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est déjà un auteur de pas forcément d'arriver, en tout cas, avec un livre complètement fini, mais de laisser peut-être, de soumettre peut-être 2-3 chapitres et de vous voir. Il ne faut pas qu'il se dégoûte. Il ne faut pas qu'il se grille. Et puis pour qu'ils voient, et après justement, si, il faut aussi que l'éditeur réponde. Moi je réponds souvent, même quand je ne publie pas, alors des fois je ne publie pas, il y a plein de manuscrits que je loupe, mais si quelqu'un arrive à m'atteindre et tout, je vais souvent lui donner des conseils, même passer 2 heures à voir et puis à sentir, au fond, voilà. Mais bon, mais autrement, c'est le texte qui est fini, c'est comme la majorité des cas. Pour moi, c'est beaucoup de choses, c'est la première chose, les premières pages comptent beaucoup, le début d'un livre compte beaucoup. Alors après, ça ne fait pas tout, mais on sent très vite. Parce qu'un auteur, c'est comme pour une chanson, on sent très bien les premières notes, s'il y a quelque chose ou pas. Alors, ça me paraît cruel, mais après, si je vois que des fois c'est maladroit, je vais relire. Toujours Quentin Mouron, le point de diffusion des égouts. Il y a un très grand chapitre à la fin, je crois que vous l'avez lu. Hein, quand il revient de son voyage en Amérique, qui s'appelle Le Banquet, que là tout le monde a été impressionné par cette partie qui a alors lancé la suite. Ben, il revoit avec il a fait 3 ans en Amérique, en Californie, et puis il voit que tout le monde est décalé, que il a vécu 1000 choses, mais que les gens, ils ont vécu leur vie, et puis ils se comprennent pas. C'est un chapitre très littéraire et magnifique. Au début, il voulait le faire, le roman commençait par ça, par le retour. J'ai dit, non, surtout pas. Je disais, enfin, ça c'était mon truc, on en a parlé, on était d'accord qu'il y avait plutôt, c'était pas un prologue, mais plutôt un épilogue. Comme ça, ça mettait. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas mal de pouvoir, travailler comme ça. Et ça, c'est drôle, les éditeurs, ils le font pas tous. Alors, je connais pas, je sais que certains le font, d'autres le font pas. Un Giuseppe Meron, que je connais bien, je sais qu'il le fait très bien aussi. Je sais pas comment ils travaillent tous. Je pense que toi, il le fait bien aussi. Là, je donne aussi, on donne à Limitrevitch, voilà, pour, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, pour répondre plus clairement, moi, ce qui est intéressant, c'est la fluidité du texte. Déjà sentir un texte qui ne soit pas râpeux, qu'on ne s'arrête pas à tous les 2 lignes, mais qu'on sent déjà qu'il y a un élan, une langue, une fluidité. Ensuite, c'est le style. Soit j'aime beaucoup le style. Alors, c'est vrai que moi, je suis capable de sortir un livre qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais qui a quand même un style, parce que je suis tellement fan de la prouesse littéraire que, voilà. Et ensuite, il y a l'histoire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'histoire. Donc, il y a des gens qui ont les... Moi, j'ai un peu les auteurs, on va dire, que faisons... c'est raconter une histoire, il a un style très fluide, mais c'est, alors que c'est vrai que Quentin, il a réussi à avoir le style, alors c'est plus un styliste encore qu'un romancier. à part que c'est le quatrième roman qui va sortir en France, aux éditions de La Grande Ourse, où c'est moi-même qui l'ai placé, sans qu'on s'en parlait, parce que j'ai voulu le suivre. Là, il y a et le style et l'histoire. Et vraiment, on va faire 300 pages. 250-300 pages. Mais c'est dur d'avoir un peu les deux. Par exemple, Bovard, je trouve qu'il a un style assez neutre, mais que c'est un très bon romancier. Voilà, en Suisse, il y a des gens comme ça. Cuneo aussi. Anne Cuneo était quand même, avait ce sens... du roman, alors chez Compiche et tout ça, Max Lebet, c'est aussi un bon romancier, le style, il est assez neutre, voilà, et, mais neutre, intéressant, mais c'est pas un styliste pur et dur, comme il y en a d'autres. Je sais qu'il y a un styliste pur et dur, mais il n'a pas fait que des romans avec des grandes histoires, hein, au milieu. Je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que les histoires, c'est à la fin qu'il est revenu avec.
Florian Glin, vous avez lu, moi j'ai personnellement beaucoup apprécié.
Voilà, tout à l'heure, voilà, lui c'est vraiment une découverte. J'avais acheté le premier, après j'ai reçu le deuxième, c'est sous les yeux là justement, parce que c'est dur à prononcer ce titre, Soral bref, une résistance, Soral Aronovitz, une résistance à toute épreuve, faut-il se réjouir pour l'instant, mais c'est la suite du premier, il a fait deux livres. Florian Glin, il a, oui, alors lui il est iconoclaste, lui il a un style. Il est
stylé. Lui, il a un style, il a une voix, lui.
Clairement. Et, et puis, comme je vous le disais, Julien, et vous aussi, hein, sans aucune plaisanterie, vous avez justement une voix, un style, et c'est vrai. Et encore, c'est tout le temps, justement, mon auteur et ami Frédéric Balloton qui me redit ça, voilà. Il a senti aussi ça. Donc, il y a, voilà, cette partie de style, de la façon d'amener les idées, d'être un peu d'être un peu iconoclaste, de faire vivre le, voilà. Florent Aiglin, je dirais vous. Après dans les hommes, Antoine Jacquier, il a quand même fait, alors lui, voilà, il a fait un style assez neutre, mais il a fait une grande histoire quand même, qui a plu. Antoine Jacquier, surtout, qui a plu à beaucoup de gens. Malgré tout, c'est un bon, c'est pas malgré tout, c'est un bon livre. C'est un bon livre, mais c'est un style neutre, mais qui tient très bien. Parce qu'il est fluide.
Tout à fait.
Alors après, il y a des stylistes, qui sont plus, compliqués, mais justement, c'est pas facile, moi, celui de Pierre-Yves Ladore, qui est pour moi un styliste hors pair, qui va jouer sur la langue, et qui sait tout arriver à rentrer dedans, c'est sublime. Mais l'histoire passe au second plan. Mais elle y est, l'histoire, il y a tout. Mais il faut rentrer dans ce style labyrinthique, et puis jouer avec la langue. Et quand c'est lu, on se rend compte que si Pierre-Yves Ladore n'est pas, il serait pas vaudois, il n'y aurait pas l'accent, puis il serait un peu, il serait parisien, il serait une des icônes à Paris, parce que c'est un immense intellectuel. Mais voilà, donc le style fait... par exemple, lui, je publie, j'y arrive. Je sais d'avance que ce sera pas forcément des best-sellers, quoique La Guerre des Légumes, le premier que j'ai fait, en a été un à son niveau. Ensuite, je sais que c'est la prouesse, c'est un talent hors pair, et ça, je défendrai toujours. Voilà.
Tout à fait. Ouais, absolument. Une littérature aussi peut-être un peu plus exigeante, donc peut-être aussi qui rencontre un peu moins de public, mais qui heureusement est... Heureusement que vous proposez aussi, finalement.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que, pour moi, lui fait partie des gens qui le sortiraient toujours. L'année prochaine, il doit sortir un livre sur son frère qui est décédé. Je sais déjà, je sais. En plus, avec Pierre Ladore, je peux retravailler. Il a 70 ans. Il est idiot qu'il a. Il n'aime pas plus son âge. On va dire qu'il n'est pas âgé. On va dire qu'il est retraité maintenant. Mais il a quand même depuis 78 des livres, le premier 5000 exemplaires. Il a une carrière derrière lui. Et encore maintenant, c'est le plus jeune entre nous. Mais je peux travailler un livre avec lui. Et je peux lui soumettre des idées. C'est quelqu'un d'inventif. Il a lu 30 000 livres. Hein. 30 000 livres, ça, c'est pas pour le chiffre, mais... Et en plus, il les a lus, il les a achetés, il était bibliothécaire, c'est un passeur, donc c'est un plaisir aussi. Alors après, voilà, cette année passée aussi, il a lancé deux nouveaux romans, c'était Fabienne Bogadil, Le Corps Déchiré, et puis Jacques Huffer, Black Widow, que je porte encore maintenant. Alors voilà, voilà une histoire. Black Widow est sorti en août, et on est en mars, et je suis encore en train de porter ce livre en France et encore en Suisse. C'est un livre qui a un succès critique très, très bon, un succès commercial bon, mais pas autant que j'attendais, mais que je ne regrette pas du tout. Mais là, je me bats, je veux dire. Là, il a invité, j'ai reçu avec la force d'insister, puis le connaissance, a été invité au festival Étonnant Voyageur Saint-Malo, qui est un des plus grands festivals de France, et littérature et cinéma, et parce que c'est un récit maritime où ils mélangent le vaudou, le maritime, l'esclavage, et ils ont adoré son livre. En France, il se vend bien, d'ailleurs, voilà. Et ça, je continue. Voilà.
Ouais, c'est aussi quelqu'un qui a un parcours de vie assez singulier. Hein.
Oui.
J'entendais, je crois que c'était à la RTS, je ne sais plus dans quelle émission il était interviewé pendant une heure, je crois, hein,
un long
entretien entre les lignes, voilà, et il racontait sa vie, effectivement. C'est quelqu'un qui est marin, je crois. Hein,
C'est un marin. Lui, alors, c'est plus autodidacte. Vous savez, j'ai beaucoup d'universitaires, justement, dans mes écrivains, c'est une question qu'on peut se poser quand on fait les lettres et autres. Lui, il est autodidacte, il était marin, mais il était marin sous la marine marchande suisse, ce qui fait rire, mais parce que c'était André.
Ah ouais, on a une marine marchande, effectivement.
Et oui, même qu'il pouvait servir de marine de guerre s'il y avait quelque chose, mais il a voyagé sur tous les continents. Il est poète depuis 20 ans, parce que lui, voilà, on ne le connaît pas comme romancier, mais et là, il signe chez Bruno Doucet, qui est le plus grand éditeur de poésie en France. Donc, c'est pas rien. Et après tout ça, il a beaucoup insisté pour que je le prenne parce que j'étais sous l'eau. Et à force, il m'a convaincu dès que j'ai compris qu'il était marin, justement, et qu'il parlerait d'un autre récit. Mais après, voilà, le paradoxe, c'est que les gens, ils disent qu'ils veulent plus qu'on parle du couple dans le 16e arrondissement de Paris, qu'ils veulent des grandes histoires. Là, c'est un grand roman qui se passe au 18e, non, au 19e, pardon, parce que c'est en 1800, c'est vers la fin de l'esclavage, 1800 et tout, donc au Brésil, au Cafrite, au Ouidas, au Bénin et tout. Mais les gens sont surpris de retrouver, mais en France, ils passent presque mieux, parce qu'ils ont cette suite de romans d'aventure, et l'esclavage aussi. Mais en Suisse, c'est bien passé aussi, hein, il est plein de médias dithyrambiques. Mais voilà, mais j'ai fait une couverture aussi, qu'une carte, mais, enfin, j'ai mis une jaquette, mais de là que les gens arrivent à, parce que c'est un nouvel auteur.
Donc, le rapport à la mer aussi est probablement très différent là, entre la Suisse et la France, aux colonies, à la mer.
Ouais.
C'est vrai qu'ici, on a peut-être un petit peu moins l'habitude de cette littérature-là.
C'est vrai qu'on n'a même pas du tout l'habitude. Moi, c'était une gageure de nouveau de me dire de faire paraître un auteur suisse et puis de faire un récit maritime. Et puis, il est marin professionnel. Quoi. Après, maintenant, il est imprimeur tout court. Voilà, il connaît aussi, pas éditeur, mais imprimeur. Et puis, c'est quelqu'un de très, je dirais, gentil dans le bon sens du terme, mais aussi de motivé. Et puis, c'est 3 tomes, le livre. Hein. Donc, les Vies d'Azur, ça continue. Ça sera un roman futuriste qui se passe maintenant, le prochain, et puis après, en arrière. Donc, il mélange tous les genres. Et puis, c'est vrai qu'en France, ça paraît plus évident qu'on parle des grands espaces, qu'on parle de toute cette époque, qu'ils sont tous connus. C'est vrai qu'en Suisse, c'est peut-être ça, vous avez raison. C'est vrai que je me suis demandé, parce que pour moi, le livre est excellent. C'est un des meilleurs livres pour moi que j'ai publié. Et je me dis qu'il aurait dû encore avoir plus de succès, commercial, parce que l'autre l'a eu. En même temps, je me dis, voilà, il aura une deuxième lecture en France, il est là, et puis, il a invité dans les festivals, voilà. Mais c'est vrai que, des fois, voilà, là, c'est un livre que, voilà, autant Quentin, j'étais sûr, là, j'étais sûr aussi, et je pensais que, voilà, mais, comme vous dites, c'est aussi un genre de récit. Quentin, c'est moderne. Quentin, ça vaut être un peu Céline, le premier, mais le deuxième est très, on va dire, de Dostoïevski, de Madame la Merci. C'est un côté très huis clos, comme ça, un peu. C'est aussi à la Carver, aussi à la Tchekhov. Et le troisième, c'est un peu une satire, un peu à la Houellebecq. Donc, 3 fois, on a changé de style, c'est ça aussi.
Tout à fait, absolument. Alors, Olivier Moratel, on va bientôt se quitter. Je crois que vous publiez prochainement 3 livres, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est vrai, d'habitude on fait 3 par année ou 4, je trouve aussi la promo, mais c'est vrai que là, j'étais d'ailleurs assez épuisé pour ça, parce que c'est vrai que 3 livres en même temps, on ne peut pas vraiment rationaliser les tâches, quoi. Il y a un peu tout qui se fait. Bon, bah, c'est lancé, mais c'est vrai qu'il y a un des livres les plus originaux et les plus drôles que je vais sortir, ça il va sortir en mai, parce que là, il est prêt, c'est le 3e roman que je vais faire à Daniel Fazan, qui s'appelle Bad. C'est vraiment un roman drôle, mais en même temps très touchant. L'histoire un peu d'un hostile. Ça se passe de nouveau, voilà. Ça se passe en Suisse, au départ, mais c'est juste que ça se passe en Suisse. Mais c'est pas. Voilà, aussi, parce que je fais une digression. Moi, je ne défends pas la littérature romande. Je défends les auteurs romans.
Voilà.
Ça veut dire que pour moi, il y a les auteurs. Pour moi, plus faire, je crois qu'il y a la différence. Il dit, il y a une littérature romande, pour moi, il n'y a plus. Et je pense que justement les gens comme vous et pas mal d'autres auteurs, à Florent Aiglin, je vois pas où vous, ou bien Quentin Mourant, une autre saigne, Antoine Jacquier, il aurait pu être français de Bretagne ou de Marseille, il n'y aura pas de différence. Parce qu'on est quand même si on est ancré dans le territoire par certains bouts, il y a une écriture aujourd'hui qui est un peu décomplexée, et puis ça c'est bien. Ouattara aussi fait bien ça avec Lajar, enfin, on sent qu'il y a une relève de littérature, voilà, et c'est ça qu'il faudrait qu'il passe en France. Mais c'est jamais, vous savez qu'on n'est pas parisien. Mais c'est vrai que pour revenir à Daniel Fazan, le livre se passe en Suisse en partie. C'est un jeune homme, voilà, qui est un peu Bad pour Baladia. C'est ça qui est drôle, parce que Bad, c'est son surnom, mais Bad comme méchant. Mais au fond, Baladia n'en parlera pas. Mais voilà, autiste Asperger, surdoué, qui finira par être un Einstein bis, qui va être un des plus grands scientifiques du monde. On va le retrouver à Cuba, en Corée du Nord et tout. Et sa mère, qui va le suivre toute sa vie, elle va attendre son retour, parce que les années passent. Puis vers les 90 ans, sa mère va prendre sa vie en main. Et c'est elle qui va avoir un succès phénoménal. Elle va devenir Miss chez les personnes âgées. Elle va conduire un char à Rio. Enfin, ça, je vous dis, elle va connaître la reine d'Angleterre. Enfin, elle va vivre des aventures exceptionnelles où on montre. C'est très touchant. C'est jamais à côté de la plaque. On peut croire que c'est fou. Mais en même temps, elle va prendre sa vie à un âge incroyable. Et puis il y aura ce désir de vivre, mais c'est un livre qui est touchant, qui est drôle, qui est original, et qui paraît fou comme ça, mais qui est toujours crédible, parce que c'est, aujourd'hui on vit plus vieux, lui, que Bad il fasse tout ça avec la science, avec les maths et la physique, c'est aussi possible. Daniel Fazan a écrit un livre assez incroyable, je suis complètement, en plus c'est rapidement subjugué, voilà, c'est Bad. Après, c'est un essai de Ferguson et pas un roman que j'ai sorti. Là, c'est plus un risque parce que John, c'est un grand essayiste pour moi. C'est lui qui m'a mis en littérature. Vous savez, j'ai pas parlé en 2004. J'aimais Ainsi par la Schmal, c'était sa chronique dans 24 heures. Et puis je vois ça, puis je vois ce côté Nietzschéen, les comics sous le sport. Je me dis, enfin, un auteur qui mélange le sport, Nietzsche, l'actualité et fixe. Sinon, il n'est pas sportif de 24 heures, donc je me dis, mais c'est là. Et puis c'est là que j'ai été le trouver. Je n'étais pas du tout éditeur, mais j'ai dit qu'on ferait un livre ensemble. Et 6 ans après seulement, je sortais 30 ans de réflexion avec lui. Et puis là, on revient, et puis là, ça va s'appeler La Bête, réflexion sur l'humain. Parce que là, John, lui, pour lui, ça c'est dès le départ. Hein. Lui, il ne croit ni en Dieu, ni en évolution. Donc ça va pas fort. Hein. C'est l'être humain. L'homme, c'est une bête comme une autre. Il y a de l'humour, il y a de la dérision. Mais moins que d'habitude. C'est pas forcément un roman. Par contre, ce qui sera très original, c'est qu'il fera imprimer en deux parties. Une partie française et l'autre partie en anglais. Et c'est la traduction française et la partie originale en anglais. Donc c'est un livre qui va être lu en les deux langues. Ça, j'ai voulu créer quelque chose avec ça.
Intéressant.
C'est John qui fait. Puis le troisième, c'est un magnifique. Magnifique. Je suis très enthousiaste, on va dire, mais c'est les auteurs que j'aime bien, et surtout, c'est vrai que c'est la belle écriture. Voilà, c'est Frédéric Valeton, Journal de la haine, et autres douleurs, c'est l'autofiction, où il raconte, il y a 10 ans à peu près, son existence, mais on voit plein de choses. Il est gay, assumé, donc c'est pas facile. C'est une histoire d'amour qu'on voit même, enfin, il est gay, on voit même pas que c'est une histoire de gay, parce qu'il parle pas. Et puis, il parle aujourd'hui, au deuxième chapitre, de ce qu'il vit. Et on voit tous ces... aussi l'histoire d'un écrivain en Suisse, aussi d'un intellectuel en Suisse, de comment vivre. Il y a une scène à la fin, il y a une phrase qui n'est pas légère. Il dit, il va voir les solutions de tableaux, il s'intéresse, il écrit, il est très très germanophile, il adore, que ce soit tous les Autrichiens, que ce soit les Thomas Bernhard, après les Allemands, enfin les Thomas Mann et Thomas Bernhard et tout cela. Et il est polyeste de l'écriture allemande, il a lu Robert Musil, et c'est justement, il aime les répétitions et tout, mais lui, il a une écriture superbe aussi. Mais voilà, c'est pas, il faut se mettre en disant que c'est l'autofiction, mais que, vous savez, en France, ils disent roman, moi je vais mettre roman, mais la plupart des livres en France, que ce soit les BD ou des pontes, c'est l'autofiction.
Absolument.
Tout dépend comment on le tourne, hein, de nouveau, comment on tourne et tout. Mais ça, c'est plus classique, mais c'est très beau, et c'est très touchant. À la fin, on voit qu'il est toujours quand même, il pleure quand même avec les limites de la mort. Il tient, mais il doit quand même, à un moment, il dit, c'est mieux que se jeter sous le train. C'est une phrase qui est très noire, mais que tout d'un coup, qui apparaît comme ça, c'est quand qu'on parle beaucoup de ça, parce que c'est vrai, ben, il tient par la littérature, par la peinture, par l'art, qui donne une, voilà, et ça me touche. Est-ce que quelqu'un qui est aussi, ça c'est, ouais, alors cette année, juste en conclusion, c'est vrai que je sors, ça, plus je vais encore sortir, Stéphane Vauban dans son, il fait le cycle de Gérimont, on va en sortir 10, les gens rigolent un petit peu au départ, mais on est déjà au troisième, dans le troisième cette année. C'est, parce que lui aussi, c'est fou. C'est créatif, c'est un moment de 2100, l'eau qui est monté, en France, de nouveau, ils ont adoré le livre. Et puis en Suisse, on peut pas comprendre, certaines fois, que, il peut avoir une folie dans un livre, mais ça se tient. Après, il évolue et tout. Et ça, bah voilà. Donc, je sors 4 auteurs pour l'instant qui sont déjà dans mon écurie.
D'accord. Bah, programme, alors, bien chargé. On serait heureux de les découvrir.
Bah oui. Puis, sincèrement, je vous remercie parce que vous faites, vous êtes sur le monde, là. Je vous le dis, sincèrement, sans flasonnerie, parce que je le vois, vous, comme Francis Richard aussi, qui fait un travail formidable, justement, comme tous ces gens qui se battent, parce que c'est, voilà, on gagne pas vraiment beaucoup d'argent avec ça, pour dire presque pas, mais c'est aussi une passion, et puis c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, que la Jarre fait ça bien, que le Salon du Livre, qu'ils avaient fait le cogner le fait bien, que les auteurs se rendent compte, livre sur les quais, que jamais les auteurs se sont autant parlé, avec tous ces festivals, avec tout ça, et que malgré tout, ça finira par donner quelque chose. Pas forcément par Paris, mais moi je crois, et c'est un truc que je ferai par la suite, à la Suisse allemande. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, là, je suis en contact avec Rico Bilger, qui est l'éditeur d'Ancuneo, pour justement traduire le livre de Jacques Tuffer en allemand. Savoir que c'est un livre qui est traduit en allemand, il se vend à Zurich. Il va passer immédiatement la frontière à Berlin et à Vienne. Il n'y a pas du tout de stracisme. Un livre qui est fait en Suisse allemande, voilà.
Et ça, c'est différent de la Suisse romande.
Et ça, c'est une piste, je pense, pour beaucoup d'auteurs romans qui pourraient être traduits, Jacques qui pourrait être traduit, vous, Quentin, Aiglin, tout cela. Ils ont largement leur place pour passer du côté en Suisse allemande, pour poursuivre faire une carrière qui sera beaucoup plus facile, parce que il n'y a pas le côté, il n'y a pas le préjugé en Allemagne. Les Allemands, des fois les Suisses allemands n'aiment pas forcément les Allemands à cause de la guerre et tout. Hein, je dis, mais les Allemands adorent les Suisses. Et j'adore aussi les francophones suisses. Ça, justement, le temps pourrait en parler. Donc, je pense que pour moi, une des clés, c'est de retrouver la Suisse. Parce que déjà, retrouver, on est à moi, à côté, on est tous à côté, à Vienne, c'est à 1 heure de Lausanne. Et on passe la France, on a 2 heures de Zurich. Et puis, de faire quelque chose avec eux, avec Pro Helvetia, et de faire justement ça. Parce que la France, je vois vraiment que ça devient infernal, même pour les auteurs qui sont dehors de Paris, même pour les éditeurs qui sont dehors de Paris. Oui. C'est un petit monde qui est un peu consanguin. J'aime bien les Français. Ils défendent aussi un monde de blogueurs formidables qui défendent, comme vous, la littérature aussi suisse. Mais les gros médias, ça devient... Mais c'est les groupes qui pèsent des milliards derrière. Vous ne pouvez pas faire rentrer. Alors qu'en Suisse allemande, qu'à Zurich, qu'à Berlin et qu'à Vienne, ça passe facilement. Et puis qu'à Martin Suter, il a explosé assez facilement quand même, même si ses livres sont très bien. Il n'aurait pas explosé autant. Par exemple, aussi, en conclusion, Alex Capu, je crois qu'il a vendu 200 000 livres, son dernier livre en Allemagne.
Oui. Très bien. Bah, écoutez, Olivier Moratel, on garde cette idée. On va suivre les développements de votre maison d'édition, peut-être du côté de la Suisse allemande dans quelques mois ou dans quelques années.
Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Par rapport à l'effort fait pour la France, l'effort ne sera plus payant. Et j'aime oublier, moi je me sens suisse, je ne me sens pas romand en plus. Je défends la littérature au monde, mais j'adore aussi, comme on disait, Dürrenmatt, mais aussi Frisch, aussi des auteurs comme ça. Alors, Souter, c'est comme un grand auteur. Après, Walser, c'est un auteur majeur quand même. Je veux dire, donc, il y a en Suisse allemande un vivier. Il me semble qu'il y a plus encore de... Je ne sais pas s'il y a plus, mais il y a peut-être moins de... Il n'y a pas la peur de Berlin ou de Vienne. Comme nous, on a peur un peu de Paris, quoi. Mais c'est passé aussi dû parce qu'il y a une des plus grandes maisons d'édition de langue allemande, elles sont aussi en Suisse. Alors que nous, c'est pas le
cas.
D'accord. Dimitri est aussi un bel exemple. Dimitri a réussi à faire passer le tout, mais c'était la folie de ce qu'a fait Dimitrievitch avec l'âge d'homme. Il a fait 4000 livres, c'est exceptionnel. Et ça, je tire mon chapeau, c'est vraiment un auteur. C'est pas lui qui m'a donné envie de faire l'édition, parce que je suis long. Hein. Vous pouvez pas couper, les auteurs ne suivent, les lecteurs ne suivront plus, mais je mettrai des mots. Je plaisante, mais c'est gentil à vous de me laisser toute cette parole, parce que je suis aussi passionné. Mais c'est vrai que Campiche, quand même, c'est lui qui m'a donné... Même si Campiche, des fois, il a son caractère et tout, moi, je reste comme ça. Il m'a donné envie, j'avais 20 ans, 15 ans. J'ai fait les premiers salons du livre que j'ai trouvé, voilà. Un éditeur qui fait, qui s'applique autant, c'est lui qui a envie. Je sais que lui, il peut des fois critique, mais moi, pas envers lui. C'est grâce à lui si je fais ce métier, voilà.
Très bien, bah c'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup Olivier Moratel de nous avoir parlé de votre vision de la littérature en Suisse romande, la littérature romande et la littérature suisse d'une manière générale. On se réjouit de découvrir vos prochains livres en tous les cas et puis bah, à très bientôt.
Bah, merci à vous Julien et bonne chance aussi pour votre prochain roman hein, parce que voilà, on se réjouit justement de... Voilà,
avec plaisir.
Cette carrière, c'est sincère parce que c'était une bonne approche, un bon succès critique et commercial. Et puis voilà, donc bon courage pour vous parce que ça avait été dur pour l'édition, mais l'auteur aussi. C'est ça, on tire à la même corde. Des fois, il faudrait que auteur, éditeur, des fois, moi j'essaye vraiment d'avoir des relations avec. Un dernier intermède, mais c'est vrai que pour moi, c'est des duos, c'est des aventures. Avec Fazan, c'est l'aventure. Avec Ferguson, c'est l'aventure. Avec Quentin, c'est l'aventure. Avec tous, d'ailleurs. J'ai dit Quentin sur une aventure encore plus belle parce qu'il était inconnu. Mais Ferguson, c'est une aventure. Là, on va faire un essai. C'est aussi ça. Je trouve que l'éditeur et l'auteur, en Suisse romande, c'est bien qu'on puisse avoir des aventures humaines parce que c'est comme ça qu'on fait la promotion. C'est comme ça que les médias le sentent aussi. Et ça aussi, c'est aussi des clés que je peux donner à certains. Meron le fait, L'Âge d'Homme le fait, Zoé le fait aussi, et plein d'autres le font aussi. Il y a plein de petits éditeurs, mais c'est important d'avoir un tandem. C'est ça la différence qu'on a avec la France. On est de proximité. Donc, jouons là-dessus.
La littérature comme aventure humaine, on va garder ce très beau mot pour la fin. Merci voilà. Olivier Moratel,
merci
à bientôt.
Merci infiniment à vous, hein. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était le cinquième épisode de Lettres romandes, un podcast proposé par Julien Sansonnens. Merci à Olivier Moratel. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes ou nous retrouver sur lettresromandes au pluriel.ch.